Bonjour. Ce mercredi 11 décembre, nous nous retrouvons à la médiathèque CDI du Vercors pour fêter Lire les montagnes avec l'aide de Radio Royan. Merci.
Nous allons écouter le texte de Jean-Luc.
Je vais vous parler d'un livre que vous connaissez sans doute qui s'appelle Voyage avec un âne à travers les Cévennes, écrit par Stevenson. J'ai pensé intéressant de vous parler de la préface qui a été écrite par un certain André Chanson de l'Académie française, mais ce livre est donc très ancien et effectivement ce monsieur n'est plus de ce monde aujourd'hui. La préface qu'il a écrite me paraît intéressante parce qu'elle est liée à sa jeunesse et à sa famille. La traversée qu'a fait Stevenson se passe dans des endroits qu'il a connus dans sa jeunesse et qui sont de son origine familiale. Voilà l'extrait que je vais vous lire. Donc, pendant son voyage, Stevenson se retrouve en pleine montagne et il est un peu perdu. Pour rejoindre Alès, c'est tout droit. Par Ganges, Saint-Hippolyte et Durfort, vous avez encore une longue route à faire. Et d'où venez-vous dans cet équipage ? La personne qui venait de le renseigner l'invite à l'étranger à se reposer un moment. Et Stevenson attache Modestine c'est son âne, à l'anneau scellé dans le mur et pénètre dans la salle pour aller réchauffer ses doigts au feu qui flambe dans l'âtre. Les deux hommes parlent et je ne veux même pas essayer d'imaginer ce qu'ils disent. Ils sont amicaux et confiants comme des gens qui ne se connaissent de longue date. Pendant qu'ils parlent ainsi, une jeune femme traverse la pièce. Elle est grande, calme, avec un front pur et un beau visage immobile. Elle a salué l'étranger d'un simple signe de tête. Elle écoute ce qu'il dit et de temps en temps se laisse aller à sourire. Elle parle à son tour, d'une voix lente, comme ses gestes, mais je me refuse une fois de plus à imaginer ce qu'elle dit. L'homme, dans la force de l'âge, était mon arrière-grand-père maternel, et la jeune femme était sa fille, ma grand-mère, Aldebert, qui devait alors avoir un peu plus de 30 ans. Mariée depuis 5 ou 6 ans, elle avait déjà deux enfants, mon oncle Émile et ma tante Eva. 2 ans plus tard, elle allait donner la vie à ma mère. Elle était alors dans le plein de sa beauté et Stevenson, toujours si vigilant devant le charme des femmes, aurait été sûrement frappé par son port de tête et par la lumière qu'elle avait au fond des yeux. Je vais vous parler plus particulièrement d'une étape qui me plaît beaucoup parce que je connais bien cette montagne qui s'appelle le Mont Lozère. Le sentier que j'avais suivi dans la soirée s'effaça bientôt et je continuais à grimper sur l'herbe rare et desséchée en suivant un alignement de bornes semblable à celle qui m'avait conduit à travers le Goulet. Il faisait déjà très chaud. J'attachais ma veste sur le ballot et je marchais en gilet. Modestine était en pleine forme et prit d'elle-même un petit trot saccadé qui faisait danser l'avoine dans les poches de mon paletot. Derrière moi, au nord, la vue s'élargissait à chaque pas. C'est à peine si l'on pouvait voir un arbre ou une maison sur ces montagnes sauvages qui se déployaient au nord, à l'est et à l'ouest, toutes bleues et or dans la brume lumineuse du matin. Une multitude de petits oiseaux voltaient et gazouillaient sur mon chemin. Ils se perchaient sur les bornes de pierre, sautillaient et donnaient des coups de bec dans l'herbe. Je les voyais tournoyer par bandes dans le ciel bleu, et de temps en temps, leurs ailes frémissantes luisaient entre le soleil et moi. Depuis le début de mon ascension, un bruit faible et profond, semblable à celui de la houle lointaine, parvenait jusqu'à moi. Parfois, j'imaginais que c'était la rumeur d'une cascade, et parfois je pensais qu'il était dû à l'effet du silence absolu de la montagne, sur mon imagination. Mais comme je continuais à avancer, le bruit grandissait et il devint semblable au sifflement d'une énorme bouilloire. En même temps, des bouffées d'air frais m'arrivaient du sommet et je compris enfin, un vent du sud violent soufflait sur l'autre versant du Mont Lozère. et chaque pas me rapprochait de la rafale. Bien que j'eusse longtemps attendu ce moment, je fus tout à fait surpris de plonger mon regard dans ce vaste horizon qui se déployait par-delà le sommet. Je fis un pas qui n'était guère plus décisif que ceux qui l'avaient précédé, et comme l'intrépide Cortés, lorsqu'avec ses yeux d'aigle il contempla le Pacifique, je crus que j'allais prendre possession d'une nouvelle partie du monde. En effet, au lieu du rude contrefort herbeux que j'avais escaladé si longtemps, je découvrais maintenant un ciel vaporeux et un enchevêtrement de collines bleues s'étalait devant moi. Le mont Lozère s'étend à peu près de l'est à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Leur point culminant, ce pic Finiel, sur lequel je me trouvais alors, s'élève à plus de 5600 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et par temps clair, la vue s'étend sur tout le bas Languedoc, jusqu'à la Méditerranée. J'ai rencontré des gens qui prétendaient avoir vu du haut du pic de Finiel des voiles blanches cinglant vers Sète et Montpellier. Derrière moi, la région montagneuse que je venais de traverser était peuplée d'une race triste et sans vaste bois. Elle ne possédait pas de pic grandiose et n'était seulement célèbre que pour son passé au loup féroce. Mais devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée, je voyais un nouveau Gévaudan varié, pittoresque. À vrai dire, depuis le monastier, j'étais presque dans les Cévennes, mais au sens strict du mot. Seul le pays tourmenté et hérissé qui se présentait à mes pieds méritait ce titre, et les paysans le lui réservaient bien. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Juste au sommet où je m'étais arrêté pour inspecter l'horizon, la série de bornes se terminait brusquement, mais un peu en dessous, une sorte de piste dévalait le long d'une pente vertigineuse et tournait en spirale à la façon d'un tire-bouchon. Elle conduisait dans une vallée qui serpentait entre des chaos, des boulis et sur les acoles des collines. Les cailloux s'entassaient comme dans un champ de chaume et dans le fond, un vaste tapis de vertes prairies s'étalait. Je descendais très vite. La rapidité de la pente, les lacets continuels et brusques et mon vieil espoir, jamais lassé de trouver quelque chose de nouveau dans un pays nouveau, tout contribuait à me donner des ailes. Un peu plus bas, un ruisseau prenait naissance, alimenté par les eaux de plusieurs sources. Il courait bientôt avec un bruit joyeux à travers la montagne. De temps en temps, il traversait le sentier et se déversait sous forme de cascade dans une petite nappe d'eau où Modestine se rafraîchissait les pieds. Toute la descente m'apparut comme dans un rêve, tant elle fut vite terminée. À peine avais-je quitté le sommet que déjà la vallée se resserrait autour de mon chemin et, brûlé par un soleil de plomb, je m'enfonçais dans l'atmosphère pesante des basses terres. Le sentier devint une route qui suivait les molles ondulations du terrain. Je passais devant maintes cabanes, mais toutes semblaient désertes. Je n'aperçus aucun être humain, je n'entendis d'autre bruit que celui du ruisseau. Cependant, c'était une région bien différente de celle que j'avais traversée la veille. La terre y laissait voir son ossature de pierre vigoureusement étalée au soleil et à l'air. Les pentes pittoresques étaient abruptes et variées. Des chênes robustes et feuillus s'accrochaient aux collines et l'automne les caressait de ses teintes vives et lumineuses. Ça et là, un autre ruisseau se précipitait dans une gorge où des chaos de roches sonores luisaient blancs comme la neige. Au fond du ravin, la rivière, car les ruisseaux recevaient de tous côtés des petits affluents, avait grossi rapidement. Tantôt bondissait furieusement en écumant et tantôt s'apaisait dans un vaste gour sombre où le plus délicieux des verres émeraudes était tacheté de reflets mordorés. Jamais encore dans aucun pays je n'ai vu de rivière aux nuances si délicates et si changeantes. Le cristal n'est pas plus transparent, les prairies ne sont pas aussi vertes et à chaque nappe tranquille que je rencontrais, j'éprouvais un désir immense de retirer mes vêtements chauds et poussiéreux et de baigner mon corps nu dans cette eau fraîche et dans l'air pur de la montagne. Tout en marchant, je ne cessais de penser que c'était dimanche. Le silence autour de moi me le rappelait à chaque instant et j'entendais en imagination les cloches des églises sonner à toute volée à travers l'Europe et le chant des psaumes qui les accompagnaient. Soudain, le bruit d'une voix humaine frappa mon oreille. Un cri d'une modulation étrange, mi-pathétique, mi-railleur, me parvint, et regardant de l'autre côté de la vallée, j'aperçus un petit gamin dans un pré, les mains sur les genoux, et réduit par la distance à une dimension presque comique. Le coquin nous avait repérés, moi et Modestine, descendant la route entre les bois de chêne, et il m'adressait ses souhaits de bienvenue dans cette nouvelle région par ce cri aigu et vibrant. Tous les bruits ont quelque chose d'agréable et de naturel quand on les entend à une certaine distance. Et cette voix, ainsi portée par l'air limpide de la montagne à travers toute la verte vallée, retentissait délicieusement. Elle faisait partie du paysage, tout comme les chênes ou la rivière. Peu après, le ruisseau que je suivais se jeta dans le Tarn, à Pont-de-Montvert, qui conserve le souvenir d'épisodes sanglants.